Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 14, un épisode un peu spécial de Maté Radio. Alors Maté Radio, c'est quoi ? C'est un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois doctorantes qui participent à un événement bien particulier, la Fête de la Science. Eliette, Alix et Chloé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, on va parler un peu de vous et est-ce que du coup vous pouvez vous présenter et nous présenter en quelques mots le sujet de vos thèses ?
Alors bonsoir, moi je suis Eliette, je suis doctorante en deuxième année au LASIR et à Infinite. Je travaille sur les sous-produits de désinfection, c'est des sortes de contaminants, et j'étudie leur formation lors du traitement de l'eau potable et leur impact sur la santé dans un contexte de changement climatique.
Alors moi c'est Alix, je suis doctorante en troisième année et je travaille sur les questions de changement climatique, plus précisément sur l'adaptation au changement climatique d'une espèce de graminée particulière qui produit du pollen allergisant.
Et bonsoir, moi c'est Chloé Grandjean, doctorante en troisième année à l'UMET. Et moi je travaille sur le développement de nouveaux alliages d'aluminium avec deux alliages bien connus dans l'industrie que je vais souder par un procédé bien particulier, le soudage par friction malaxage. Et voilà.
Alors aujourd'hui, on va parler de la Fête de la Science. C'est une manifestation nationale qui comprend différents événements gratuits. Dans les Hauts-de-France, deux événements vont avoir lieu. Il y a d'abord le parcours des sciences infuses organisé par l'Université de Lille avec plusieurs ateliers. Le rendez-vous est donné du 2 au 5 octobre à l'Institut Pasteur et du 9 au 12 octobre au gymnase de Lille. Nos trois invités du jour vont participer à cet événement. Il y a également le festival du CNRS qui aura lieu cette année au Centre minier Le Ward du 9 au 11 octobre. Un de nos laboratoires, l'UCCS, l'unité de catalyse et chimie du solide, va participer à ce festival avec un stand dédié au machine learning. Pour ces trois rendez-vous, le jeudi et le vendredi sont consacrés à la visite des écoles et le week-end est ouvert au grand public. Chaque année, un thème rassemble tous les événements et pour 2025, le thème est intelligence avec un S entre parenthèses. C'est un sujet qui n'a pas l'air facile, mais vous allez voir que les doctorantes ici présents ont trouvé des idées pour leurs ateliers. On peut peut-être commencer par Eliette et Alix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre atelier ?
Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, notre atelier, il porte sur le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire le parcours de l'eau entre son point de captage, que ce soit dans une rivière ou dans une nappe phréatique, jusqu'à son rejet dans le milieu naturel. Donc ce cycle de l'eau, il comprend le circuit de l'eau potable et celui du traitement des eaux usées. Ce sont deux circuits sur lesquels travaille notre laboratoire, le LASIR. Donc pour expliquer ce petit cycle de l'eau, nous avons imaginé ensemble, avec d'autres doctorantes, un jeu de société de type jeu de loi qui retrace tout le parcours de l'eau, de son captage à son rejet. Et le long de ce parcours vont se trouver plusieurs cases avec différents codes couleurs où chaque couleur va être associée à une thématique de question. Donc on aura des questions sur les infrastructures, sur les actions possibles à réaliser et aussi des questions plus globales de connaissances et de sensibilisation. Chaque équipe, donc deux ou plus, sera représentée par un petit pion en forme de goutte d'eau qui pourra se charger plus ou moins en contaminant. Et le but du jeu sera de réussir à finir le cycle de l'eau avec le moins de polluants possible.
Et du coup, notre jeu, il s'inscrit dans le thème des intelligences, donc avec un S entre parenthèses, par rapport tout d'abord à l'intelligence humaine, parce que donc tout le développement du système de transport des eaux et celui d'assainissement, ça a permis de répondre à des enjeux sanitaires. Par exemple, avant le 19e siècle, les eaux, elles n'étaient pas traitées donc avec la Javel, ce qu'on fait actuellement. Et à travers l'eau potable, il y avait des maladies infectieuses qui se propageaient énormément, telles que le choléra ou la typhoïde. Et donc, c'est la mise en place du traitement de l'eau grâce à la compréhension à la fois des voies de transmission de ces maladies, mais aussi des moyens de venir les éliminer, qui a permis, par exemple, de baisser de plus de 90% les décès liés au choléra aux États-Unis. Et donc là, c'est une première forme d'intelligence sur l'adaptabilité des hommes face à certains enjeux. Une deuxième forme d'intelligence, c'est celle de l'optimisation des traitements, donc en utilisant les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Et donc, pour diminuer l'utilisation de produits permettant de traiter les eaux usées ou les sources d'eau potable, donc, il y a de plus en plus de programmations et de simulations qui sont faites pour permettre d'adapter au mieux tous les processus. Par exemple, si on simule donc, la concentration en matière organique, donc, ça va être par exemple les fleurs, la terre, les feuilles, qui vont se mettre dans les eaux potables, et ben, on va pouvoir adapter en fonction, grâce aux simulations, la quantité de javel qu'on va ajouter et donc limiter la formation de contaminants. Et enfin, donc une dernière forme d'intelligence qui, pour nous, est peut-être la plus importante, c'est au niveau de l'intelligence collective. Parce que, comme on commence bien à le savoir, malheureusement, donc la ressource en eau, c'est une ressource qui est limitée et sur laquelle il y a beaucoup de contraintes, notamment à cause donc, du dérèglement climatique. Et donc, parler des actions que l'on peut mettre en place collectivement pour préserver les eaux, repenser nos villes, etc., pour nous, c'est quelque chose de primordial, car c'est collectivement qu'on peut avoir une portée importante.
Et c'est pour ça aussi que la fête de la science, c'est important, parce que du coup, grâce aux classes, aux groupes de classes, j'imagine qu'il y aura du coup un impact plus important avec la multiplication des personnes.
Oui, parce que comme ça permet de transmettre à la fois ses connaissances, mais aussi dès le plus jeune âge, montrer qu'il y a des actions faciles à mettre en place rien qu'à l'échelle individuelle. Et donc, si on dit ça, par exemple, à des primaires, ils vont pouvoir après venir le répéter et... On espère que c'est des messages qui vont passer dessus.
Et donc, il y aura des réponses à trouver. Est-ce qu'on peut gagner à la fin du jeu ?
Bah bien sûr, sinon c'est pas très drôle. Donc, le jeu se divise en plusieurs phases. Pour avancer, il sera nécessaire de répondre aux questions correctement. On propose des questions ouvertes, mais aussi des vrais ou faux, des questions à choix multiples, etc. Et on a pensé aussi à adapter la difficulté des réponses en fonction du public, puisqu'à la fête de la science, on accueille différents élèves de différents niveaux scolaires. Et aussi, donc, pour garder les élèves impliqués et aussi pour rendre le jeu plus dynamique, les différentes équipes vont s'affronter. Et l'une des équipes pourra gagner une fois qu'elle sera parvenue au bout du cycle de l'eau. Et aussi, attention, si et seulement si elle aura débarrassé son pion de tous ses polluants.
Et justement, à travers cet atelier, qu'est-ce qui est important que le public comprenne ?
Alors pour nous, un des messages clés, ça va être l'importance du coup de protéger ce cycle de l'eau. Avec donc la visualisation du cycle entier, ça permet de se rendre compte qu'il existe une multitude de modes d'action et à tous les niveaux du cycle, que ce soit au niveau du traitement de l'eau potable ou sinon au niveau de son rejet. Car au plus, est-ce qu'on va faire attention à ce que l'on rejette, donc que ce soit à l'échelle de collectivité ou individuelle, au mieux, elle sera la qualité de l'eau, que ce soit pour la consommation ou pour la biodiversité. C'est une sorte de cercle vertueux et c'est le message qu'on veut réussir à faire passer.
Et alors, pour cet atelier, la particularité, c'est qu'il sera présent uniquement pour les jours scolaires au gymnase de Lille, près du théâtre Sébastopol, c'est ça ?
Oui, exactement, mais il sera ensuite accessible au niveau de l'Experium. Donc le format à l'Experium, il sera un petit peu différent, car pour l'Experium, on va se concentrer surtout sur la réutilisation des eaux, notamment des eaux pluviales. Et également, ça va être en collaboration avec un autre laboratoire donc, qui n'est pas présent avec nous sur l'atelier de la fête de la science, qui est le laboratoire de génie civil et géo-environnement. Et donc ici, on va avoir donc, un mélange un peu des visions, donc, avec un point plus au niveau de l'infiltration des eaux notamment.
L'Experium, qui est un lieu de l'Université de Lille, ici à Cité Scientifique. Si vous êtes intéressé pour visiter ou découvrir différents stands, la saison 6 débute le 11 octobre. Mais alors pour cet atelier, qui est, si je comprends bien, l'équivalent d'un jeu de société, comment allez-vous faire pour vous adapter aux différents niveaux des classes qui vont venir ? On le rappelle, ça peut être des élèves de CM1 comme des élèves de terminale.
Donc pour faire ça, on a imaginé un peu notre plateau de jeu comme quelque chose de modulable, où on pourra modifier le circuit, on pourra modifier les questions, plus ou moins longues. Chaque question peut être adaptée en fonction du niveau des élèves, notamment en changeant la difficulté de la question, en rajoutant des fausses pistes, etc. Et on a plus orienté des questions de choix multiples pour les publics les plus jeunes, des questions ouvertes pour les publics, les lycéens, les collégiens. On ira plus dans le détail avec les élèves de cycle supérieur.
Est-ce qu'on peut avoir en avant-première une ou deux questions qui seront posées aux élèves ?
Oui, bien sûr, pas de problème. Donc, un exemple, par exemple, pour montrer l'adaptation en fonction des niveaux, on va poser une question sur le thème global, c'est la nappe phréatique lilloise. Donc, pour les primaires, là, la question, c'est une question plus à choix multiples. Et donc, on demande l'eau potable, elle est seulement prélevée dans A, la nappe de la craie, B, la nappe de sable, ou C, la nappe de la mer du Nord. Donc là, c'est comme ça, on donne trois exemples. Bon, c'est un petit peu difficile quand même comme question, mais donc ça permet après de leur expliquer que c'est la nappe de la craie, et donc comme ça, ils ont un petit peu une idée de ce que c'est. Bon, après, il y a des fois, on fait des choix multiples où c'est quand même beaucoup plus simple. Et du coup, pour les collèges, là, on a par exemple opté plus pour un vrai ou faux pour venir parler de cette nappe. Donc avec, par exemple, la première question qui est « La nappe de la craie est utilisée pour l'eau potable de la métropole lilloise. » Donc là, du coup, vous savez que c'est vrai. La deuxième, c'est l'affirmation, c'est « Cette nappe se situe à moins d'un mètre de profondeur. » Donc, spoil, c'est faux. Elle est entre 20 et 30 mètres de profondeur. Et sinon, est-ce qu'elle alimente principalement, elle est alimentée principalement par l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol? Et ça, c'est vrai. Et du coup, là, c'est par exemple pour montrer un peu les choix différents. Et pour les lycéens, c'est un peu comme le style collège, mais un peu plus poussé. Et je ne sais pas si...
C'est très bien. Merci pour ces exemples. Je pense qu'on est prêts, du coup, pour la fête de la science. Merci d'avoir répondu à ces premières questions. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause musicale avec le morceau que vous avez choisi. C'est Théodora, Les oiseaux rares.
Dis-moi ce que tu fais quand tu t'ennuies. Oui, dis-moi ce que tu... Dis-moi ce que tu fais quand tombe la nuit. Dis-moi ce que tu...
Dis-le, dis-le, oui. Je n'ai qu'une seule vérité. Des mensonges, j'en ai déjà dix. Déjà dix. Si c'est non ou oui, il n'y a qu'une seule vérité. Je ne ferai plus de ce
prix. Comme serpent qui n'a jamais ému, ce nouveau toi je l'ai jamais eu.
Dis-moi tout ce que t'as jamais dit, oh. Dis-moi ta vie, dis-moi ta vie.
Dis-moi ce que tu fais quand tu t'ennuies, dis-moi ce que tu...
Dis-le, dis-le, oui. Je me perds dans tes pensées, y'a plus de branches pour mon
voler. J'en ai perdu mes mots, j'en ai perdu mes mots.
J'ai attendu.
C'était Les oiseaux rares de Théodora. On va maintenant laisser la parole à Chloé. Donc je vous rappelle, on est dans une émission Maté Radio spéciale pour la fête de la science. Et Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton atelier ?
Oui, bien sûr. Merci pour cette petite pause musicale. Super. Alors, en gros, l'idée de l'atelier que je vais présenter avec mes collègues, donc, c'est de présenter l'intelligence artificielle au service des matériaux. donc ce qu'on appelle en recherche le machine learning, ou en français l'apprentissage par ordinateur. Et du coup, on va vous expliquer le concept par des exemples simples et usuels, comme par exemple la prédiction de la météo. Donc, pour que la machine puisse prédire, il lui faut des données d'entrée. Donc, données d'entrée pour la météo, on va prendre par exemple le taux d'humidité, le soleil, la couverture nuageuse de la veille, par exemple. Ensuite, il faut plusieurs couches de réseau qui testent différentes combinaisons de données d'entrée. Donc, par exemple, si j'associe la couverture nuageuse avec le taux d'humidité que je viens de mentionner, alors la prédiction météo ne sera pas la même si j'ai beaucoup de nuages ou si j'en ai peu, par exemple. Donc tout ça, les données d'entrée et les couches de réseau, elles permettent d'aboutir à une donnée de sortie qui sera en fait le temps qu'il fera demain. Donc pour rendre la chose un peu plus concrète en lien avec les matériaux, ce qu'on peut faire au laboratoire, vous allez jouer avec des briques de Lego, tout simplement. On retourne en enfance et alors chaque brique individuelle sera une donnée d'entrée. Donc pour le cas des matériaux, la donnée d'entrée, ça peut être par exemple la nature chimique d'un atome. Donc je vais prendre l'exemple par exemple du fer ou du cuivre. Il faudra aboutir ensuite à une forme bien précise en associant les briques adéquates entre elles pour fournir la donnée de sortie. Donc par exemple, un alliage métallique, donc je rappelle, un alliage métallique c'est un mélange d'éléments chimiques avec des propriétés bien spécifiques. Et alors, vous allez faire ce que la machine fait en quelques secondes seulement, c'est-à-dire tester toutes les combinaisons possibles et trouver une solution.
Mais alors qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce stand ?
Alors, comme je viens de le dire, on va apprendre ce qui se cache derrière le mot machine learning, donc le tout avec des Lego. Donc vous vous rendrez surtout compte que l'intelligence artificielle n'est pas en fait vraiment de l'intelligence, mais c'est du calcul très rapide qui s'appuie sur des données scientifiques. Et vous allez aussi apprendre à reconnaître des métaux, ce qui est beaucoup plus cool, à tester leur caractère mécanique par exemple, enfin magnétique aussi, à connaître leurs différentes propriétés physiques, donc tout ce qui est densité, résistance mécanique, résistance à l'oxydation par exemple. Et en effet, après l'atelier avec les Lego, on refera le lien avec la métallurgie.
Et donc ce sera accessible à tous les publics ?
Oui, bien sûr, accessible à toutes et tous. Donc vous verrez des choses super chouettes et en plus avec des Lego, donc forcément c'est vraiment bien.
Du côté des matériaux, donc c'est un atelier unique, mais qui sera présent les 4 jours. Il ne faut surtout pas le rater.
Alors je dirais qu'il ne faut surtout pas le rater, mais vous pouvez quand même le refaire chez vous, parce qu'en fait il vous faut juste des Lego, mais l'explication avec les doctorantes et les doctorants présents, et surtout la chercheuse derrière en vaut le détour.
Oui, parce que du coup, tu n'es pas seule sur ce stand. Il y a plusieurs personnes qui font partie de ton équipe. Très bien, merci pour ces explications. Maintenant, je vous propose qu'on discute un peu toutes les 4. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà quelles sont vos motivations pour participer à cette fête de la science ? Et est-ce que c'est la première fois ?
Alors, de mon côté, c'est la toute première fois que j'y participe. Je pense que ce qui m'a motivé le plus, c'est de pouvoir transmettre et vulgariser ce qu'on fait en recherche. Et du coup, aussi de pouvoir expliquer l'enjeu de la préservation de l'eau. Mais c'est aussi, je trouve, un petit challenge aussi personnel et intéressant parce qu'on va se confronter à un public très large et très diversifié. Et donc, c'est intéressant d'apprendre à adapter notre langage en fonction du public.
Oui, moi je l'ai déjà réalisé l'année dernière, la fête de la science, c'était super intéressant aussi. Ben, pourquoi je fais ça, je sais pas. Je pense que ça donne beaucoup de sens aux travaux qu'on fait en laboratoire. C'est vrai qu'on n'est pas trop confronté à un public très vaste, alors que là, dans la fête de la science, on va expliquer, essayer de vulgariser. Donc en fait, je trouve que c'est une autre compréhension de ce qu'on fait aussi, essayer de vulgariser ce qu'on fait, parce qu'en fait, toute la journée, on reste avec des termes très scientifiques, très poussés. Là, on va essayer d'expliquer les mêmes choses, mais alors à des enfants très jeunes. Ou alors des collégiens, des lycéens. Donc je trouve ça super intéressant qu'on fasse ça. Et ouais, moi, j'aime beaucoup.
Et moi, tout comme Chloé, ce sera la deuxième fois que je participe. Et ce que je préfère surtout, c'est interagir avec les gens et découvrir aussi leur manière de réfléchir sur des sujets que nous, on connaît par cœur, qu'on a explorés vraiment très en détail. Et je trouve ça vraiment très chouette aussi d'aborder ça par le jeu. Donc c'est chaque année un plaisir et j'espère pouvoir le refaire l'année prochaine encore.
Et donc, pour Alix et Chloé, est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose qui vous a un peu surpris la première fois que vous avez fait la fête de la science ?
Alors, en réalité, l'année dernière, j'ai été très surprise par la diversité des choses qui avaient été proposées et la diversité des manières aussi de communiquer et de vulgariser la science.
Moi, je présente encore un atelier sur le petit cycle de l'eau, les châteaux d'eau. Juste à côté de nous, il y avait un atelier sur le cancer, un peu plus loin, sur les écosystèmes. Enfin, vraiment, et sous plein de formes différentes, avec des gens passionnés à chaque fois. Et c'est super enrichissant et super valorisant pour nous en tant que chercheuses, je trouve.
Est-ce que, justement, c'est un peu votre fête de la science aussi ? Est-ce que vous allez aller voir les autres stands ?
Oui, carrément. Moi, j'aime beaucoup faire le tour des autres stands. Ben, comme tu as dit, c'est vraiment super intéressant tout ce qu'on retrouve, en fait. Et même avoir une vision, ah tiens, ils ont pensé à faire un jeu, ah tiens, ils ont pensé à faire ça. En fait, c'est même super intéressant pour ensuite réfléchir. L'année prochaine, on pourrait peut-être s'orienter vers la même chose ou en tout cas prendre des idées et même apprendre nous, parce que c'est vrai qu'on est enfermé dans notre labo et on ne sait pas trop ce que font les autres labos, donc c'est super intéressant.
Et toutes ces actions, donc, c'est des projets de médiation scientifique. Est-ce que c'est un sujet important pour vous ?
Alors, pour moi, carrément, parce que je trouve que c'est très important dans la recherche. J'ai l'impression on arrive vite dans un entre-soi et on reste tout le temps entre personnes qui sont dans l'académique, en recherche, donc entre chercheurs, doctorants, post-doctorants, etc. Doctorantes, post-doctorantes. Mais du coup, là, je trouve ça chouette de pouvoir venir toucher un public qui est beaucoup plus diversifié et du coup, montrer qu'en fait, en prenant le temps et juste en choisissant les bonnes méthodes, en fait, c'est accessible à tout le monde ce qu'on fait. Et donc, pouvoir montrer que la science, c'est pas juste un truc bizarre que des personnes en blues font, mais que c'est quelque chose qui touche tout le monde et que tout le monde peut comprendre.
Et est-ce que vous aviez déjà participé à ce type d'événement quand vous étiez plus petite ?
Alors, pas du tout pour ma part.
Non plus.
Ouais, moi non plus.
Alors du coup, qu'est-ce qui vous a attiré vers la science ?
Moi particulièrement, depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été intéressée par comprendre comment les choses fonctionnaient, et surtout la nature, et je fais principalement de la biologie végétale, pour moi c'est fondamental, et de savoir comment est fait le monde qui nous entoure. Mes questions préférées, elles commencent toutes par pourquoi, et je trouve que la fête de la science... C'est un moment et c'est un endroit super pour avoir plein de réponses à toutes ces questions qu'on se pose. En tout cas, que je me posais et dont j'aurais eu la réponse.
Et moi, c'est un peu lié aussi. C'est pour essayer de comprendre, mais aussi parce que je ne savais pas trop quoi faire. Plus tard, j'étais un peu perdue. Mais là, ça me permettait d'associer à la fois mon travail et certaines de mes valeurs. Et je savais que je voulais travailler pour la protection de l'environnement. Et donc, du coup, ça me permettait de... aussi associer ça avec la recherche de connaissances.
Et moi, je dirais pourquoi j'ai été attirée par les sciences. Je trouvais ça intéressant. Effectivement, je suis d'accord. Le pourquoi, il est hyper présent. Et je me disais que ça me permettait de répondre à beaucoup de pourquoi. Donc, ça, c'est toujours intéressant de répondre à ces questions.
Est-ce que vous avez des attentes particulières pour cette année, pour cette édition de la Fête de la Science ?
Moi, j'adore le moment du midi où le public s'en va. Et où on se retrouve tous ensemble, tous les doctorants, doctorantes, les permanents aussi, qui sont là pour animer. Et on parle tous de ce qu'on fait dans notre travail, mais aussi des ateliers, de chacun, chacune. Et c'est un moment à chaque fois que j'aime beaucoup, en tout cas que j'avais beaucoup aimé l'année dernière et que j'attends encore cette année.
Est-ce que vous pensez que ce genre de projet peut vous aider aussi à grandir au niveau scientifique ?
Ouais, tout à fait. Je trouve que oui, être en contact avec des jeunes, tout ça, ça fait prendre du recul sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, hyper important, parce que je pense que dans une thèse, on se pose beaucoup la question, mais pourquoi on fait ça ? Et je pense que faire ça, ça déconnecte un peu de notre recherche, ça nous fait prendre du recul à nous dire, bon, ok, voilà, c'est pour ça, enfin en tout cas, c'est pour ce genre de choses que je fais de la recherche. Et donc ça, c'est vraiment appréciable.
Et comme Alix, elle l'avait précisé, d'avoir les questions, en fait, des fois aussi, ça permet même pour un public qu'on pourrait dire qui est éloigné, de voir des parties de notre sujet auxquelles on n'avait pas pensé. Enfin, il y a des fois, on peut nous poser des questions, ça paraît super simple, et en fait, on se rend compte que juste le truc hyper simple, on ne sait pas y répondre. Donc, c'est quand même assez important, je trouve, de se confronter à totalement d'autres questions aussi.
Nous allons donc passer à la dernière question. Pourquoi nos auditeurs devraient venir à la Fête de la Science ?
Parce que c'est super chouette.
Très bonne réponse.
Oui, et en plus, ça se passe à Lille, et là, on est des labos qui sont situés à Lille et ses alentours. Donc, je trouve que c'est aussi bien de pouvoir après montrer ce qui se fait dans cette ville et quels sont les différents projets qu'il y a autour.
Très bien, bah merci à toutes d'être venues aujourd'hui pour répondre à nos questions. Je vous souhaite une très bonne fête de la science. On rappelle que cet événement est gratuit. Et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la fête de la science ou le 29 octobre prochain pour un nouvel épisode de Mater Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.